parfois, on a tellement de choses à se raconter. J'ai le plaisir d'être avec Élisane Pellerin. Bonjour, Élisane.
Bonjour, François.
J'étais en vacances, Élisane, et avant de vous céder toute la place et votre revue de presse qui est très abondante cette semaine. J'aimerais juste vous... On a échangé quelques photos. J'étais en Angleterre, je dois dire, et j'ai vu deux endroits assez intéressants pour ce qui est de l'accessibilité. Au National Gallery, qui est un très beau musée à Londres, il y avait effectivement des toilettes accessibles, mais ce qui m'a frappé, c'est que sur la porte, c'était marqué non seulement que c'était accessible avec les logos habituels, c'était marqué « left-handed ». C'est-à-dire des toilettes accessibles pour les gauchers.
Oui.
Et juste un peu à côté, dans le corridor, il y avait une toilette accessible marquée « right-handed » pour les personnes droitières. Et sur le coup, je me suis dit, c'est gentil les gauchers, là, c'est 15-20% de la population. Mais puis là, j'ai fouillé un peu, puis j'ai dit, ben oui, François, des personnes à mobilité réduite pourraient ne pas avoir un usage symétrique de ses membres.
Ah, voilà.
Et où est la barre d'appui dans la salle
moi
de bain?
Moi aussi, je me suis questionné, François.
Ben c'est ça.
En tant que gaucheur, je me suis sentie interpellée.
Bien, c'est bien.
Je ne comprenais pas de quoi j'avais besoin.
Exactement.
Et que je ne savais pas que j'avais besoin.
Pourquoi? Alors, effectivement, c'est maintenant inscrit dans les réglementations à Londres, quand on crée des toilettes publiques, de mentionner, avant même que la personne entre dans l'espace privé de la toilette, si les barres d'appui vont être à gauche ou à droite, et qu'il y en ait des deux côtés disponibles.
Oui.
Parce que, effectivement, j'ai lu des témoignages des gens qui peuvent avoir des difficultés motrices, non l'usage que d'un bras et non pas de l'autre, ou vraiment il y a une différence. Et de savoir où est la barre d'appui, ça fait...
C'est aidant, oui.
Ça fait beaucoup. Alors ça m'a beaucoup frappé. Et j'ai trouvé que c'était une très belle initiative. L'autre fois que je me suis retrouvé face à une porte de toilette pour personnes handicapées, personnes en situation de handicap, dont je suis, c'était à Heathrow, à l'aéroport. Et là, j'ai trouvé ça vraiment chic. Sur la porte, il y a une petite affichette qui disait... Tous les handicaps ne sont pas visibles.
Oui.
Hein? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de faire des gros yeux à des gens qui sortaient de la salle de bain pour personnes handicapées. Puis je me suis dit, voici quelqu'un qui n'en a pas vraiment besoin, qui a pris ma place. Mais des fois, peut-être cette personne-là...
En avait besoin et qu'on ne le savait pas.
Voilà, tout à fait. Comme moi, quand je sors d'une salle de bain pour personnes en situation de handicap, j'ai pas l'air à prime abord à en avoir besoin.
Oui, effectivement.
Et là, ben, des fois, les gens me font des gros yeux. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on passe outre. Voilà. Alors, quand on voyage, ça forme la jeunesse. On apprend toutes sortes de choses. Et voilà, ce sont des initiatives qui seraient chic à reproduire chez nous.
Oui.
Assez de bavardage, Élisane. Passons à votre revue de presse.
Commençons à la revue de presse, donc, en France.
Oui.
Alors que le service public départemental de l'autonomie est officiellement lancé.
Oh!
Donc, on a un nouveau service public départemental qui va être pour les personnes âgées et personnes en situation de handicap.
Et ça, c'est pour fusionner ou faire un carrefour pour tous les services qui existent.
Oui. En fait, ça revient avec la loi Bien vieillir là, qui demandait justement un meilleur encadrement des services. Oui, merci François. Donc, effectivement, les personnes là, vont pouvoir se fier à ce département-là pour avoir accès à tous les services dont ils ont besoin, donc tout sur le même site Internet, tout au même endroit, et ça va grandement faciliter donc la recherche d'informations et de savoir qui appeler en cas de problème.
C'est ce qu'on appelle le guichet unique. Hein, souvent,
oui.
En termes administratifs, là, puis tout le monde veut en créer un, mais c'est pas tout le monde qui y arrive. Voilà. Alors ça, c'est lancé en France, le département de l'autonomie, service public. En France encore, il se passe des choses du côté de l'apprentissage.
Oui, on a quelques nouvelles en France cette semaine. François, ça a quand même beaucoup bougé. Il faut dire qu'on est dans la semaine du handicap également et le mois du handicap à Paris. Donc, ça peut expliquer un petit peu pourquoi on a autant de nouvelles qui nous viennent de France, mais entre autres, donc, France, on a la publication d'un guide pour les entreprises pour aider à l'inclusion des personnes en situation de handicap au travail.
Ah, ben ça, c'est précieux parce que souvent, ben, c'est l'ignorance qui ferme les portes, si je peux dire. L'Association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées, hein, ça, c'est un acronyme AGP. GEFIPH, là, mais, enfin, je suppose que ça se prononce la GIF, quoi qu'il en soit, a agi en faveur de l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi. Et ce guide-là va donner tous les outils aux employeurs, que ce soit l'intégration, l'aménagement des...
L'adaptation, la bourse, l'ergonomie des lieux, entre autres.
Tout à fait. Alors ça fait un bon pas en avant, mais il y a un aspect artistique aussi à ce mois du handicap.
Oui, mais comme je le disais, donc on a la Nuit du handicap, qui est un rendez-vous festif pour tout le monde. D'un côté, évidemment, on va avoir des activités pour sensibiliser les gens au handicap, mais aussi pour rendre le handicap plus positif à la vue des citoyens et citoyennes. Donc, on va avoir des quiz, des stands de maquillage, des défis sportifs, de sport adapté, des initiations aux gestes de premier secours et des initiations à la prévention, des rencontres avec des chiens d'assistance, j'adore ça, François, des parcours aveugles, donc avec des chiens d'assistance où le chien peut vous guider pour vous montrer un peu. Mira fait un peu la même chose ici au Québec, hein, pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air, hein, quand on est une personne aveugle qui essaie de s'orienter sur des trottoirs. Donc, ça peut sensibiliser les gens. Hein. Souvent, ils ont l'air très bons parce qu'ils sont très habitués. Ouais, mais c'est quand même pas facile.
Ça demande beaucoup de travail.
Voilà, ça demande beaucoup de travail. Il y a aussi bon, des ateliers de danse. Différents du choral et des remises de trophées et de la musique, des concerts. Donc,
ça
va pouvoir, oui, montrer aux gens un peu un côté un peu plus festif du handicap. Donc, on espère avoir des gens et on espère évidemment mobiliser la société au niveau de Paris pour faire avancer les droits des personnes en situation de handicap.
Tout ça, ça a lieu la nuit du 15 au 16 juin. Alors ça, c'est dans 2 semaines. Si jamais vous allez à Paris, soyez-y. Mais c'est surtout l'idée, le concept hein, de faire quelque chose de fait. La nuit, c'est festif. Là.
Oui.
Il va y avoir tout l'aspect artistique lié à ça, le sport adapté, ainsi de suite. Là. Je dirais l'éducation populaire, si on peut appeler ça comme ça. Tout ça, c'était ici les Molineaux. Un joli nom. C'est une ville qui est en banlieue de Paris. Une quarantaine de kilomètres. Ici, les Molineaux, ça se retient bien. Mais c'est surtout le concept qui est chouette. Dans les bibliothèques aussi à Paris, il va y avoir quelque chose.
Oui, on parle donc des activités pour les enfants. Parce qu'on pense que de sensibiliser les enfants, c'est une bonne chose. Évidemment, il y a des enfants qui vont vieillir, qui vont devenir citoyens dans la société. Et donc, on pense que plus on les prend jeunes, et plus ce sera facile d'en faire des citoyens responsables et sensible à la situation des personnes en situation de handicap. Donc, on aura un film là, pour parler d'inclusivité, on aura des spectacles de poésie, on aura également des lectures là, pour les jeunes enfants, donc des lectures avec des protagonistes en situation de handicap. Et tout ça, encore une fois, il y a pour eux moins de handicap à Paris.
Et chacune des bibliothèques de la ville a son propre programme. Il y en a des programmes qui sont, comme vous le dites, qui touchent davantage les enfants plus jeunes, vers 3 ans, 4 ans. D'autres, pour les préadolescents, il va y avoir des films qui vont être projetés, des soirées de poésie, ainsi de suite. C'est comme si chacune des bibliothèques de Paris avait créé son propre programme, son propre projet pour le mois de juin. Encore une fois, juin, mois de la personne en situation de handicap en France. Encore une fois, le mois parisien du handicap dans le 14e arrondissement, ça c'est spécial.
Oui, on a un premier salon du livre adapté, François, donc du vendredi 14 au samedi 15 juin 2024, donc dans les prochains jours. Et il fallait y penser, en fait, hein, c'est rien de... On réinvente pas la roue, comme on dit, mais quand même...
Mais
ça
encore,
permet...
il s'agit de le faire.
Oui, voilà. Ça permet de mettre en avant donc des personnes en situation d'handicap dans les livres, également des auteurs, autrices en situation d'handicap et fêter, en fait, le fait d'être différent, de normaliser le fait d'être différent. Donc, effectivement... c'est un salon à adapter, donc c'est la première fois qu'on fait ça à Paris.
Oui.
Et puis, c'est une belle initiative, justement, pour mettre en lumière des personnes en situation handicap.
Mais quand j'entends ça, je me dis, la première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi pas ici?
Ben voilà, c'est pourquoi je vous ai mis à François, ben non ouais. pas parce que je suis tout soudainement là, amoureuse de la France, mais parce que ça donne quand même des bonnes idées. Ça serait pas très compliqué de faire ça ici au Québec, ça ne demanderait pas énormément de ressources. Et effectivement, je pense qu'on est des auteurs, autrices en situation de handicap, quand on a des livres de qui mettent d'avant des protagonistes en situation de handicap ou des livres adaptés qui pourraient être mis d'avant. On sait, le Salon du livre, entre autres, de Montréal et un peu partout dans les villes adjacentes, c'est très populaire au Québec.
Oui, tout à fait.
Donc, on aurait probablement une clientèle pour ça.
Oui, exact. Il va y avoir, au départ, c'est un salon qui est organisé par le comité Valentin Ahuy. Valentin Ahuy c'est une longue histoire, là. C'est un pédagogue du 18e, 19e siècle qui s'est occupé beaucoup des personnes avec un handicap visuel. La société Valentin Ahuy en France, c'est un peu comme l'INCA ici, si on peut faire un rapprochement. Et donc, à partir de sensibiliser le public au handicap, mais ambitionne également de présenter, comme vous le dites, des visiteurs à différentes facettes. Ça va être les 14 et 15 juin à la mairie du 14e arrondissement. La musique nous appelle à laisser l'antenne pour quelques annonces importantes de notre Canal M préféré. Voilà, on vous revient dans 2 minutes.
Avec François Beauregard.
Oui, de retour avec Élisane Pellerin, on fait la revue de presse. Avant de quitter le vieux continent, Élisane, il n'y a pas qu'en France qu'il se passe des choses.
Non, on va aller faire un petit tour en Suisse, François. Donc, on a une projection, une exposition au Parlement à l'honneur des Journées nationales d'action pour les droits des personnes en situation de handicap sous le slogan Avenir inclusif. Donc, il va y avoir une exposition qui s'appelle Regard. Qui va être donc au département de la santé et de l'action sociale. Les Journées nationales d'action et d'inclusion se tiennent donc du 15 mai au 15 juin, donc on est vers la fin.
On est en plein dedans, oui.
Et on veut marquer cette année les 10 ans de la ratification de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes en situation de handicap, dont la Suisse est signataire, le Canada aussi d'ailleurs, pour éliminer les inégalités frappant les personnes en situation de handicap. Pour ce faire, voilà, il y aura aussi un film qui s'appelle « Inexclusion » qui va être projeté. Il va y avoir également là, différentes activités et...
tout ça dans le cadre, encore une fois, d'un mois de l'inclusion en Suisse, qui fait un peu le reflet de ce qu'on avait tout à l'heure en France. Dans les activités, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est le film « Inexclusio », qui est en fait basé sur les archives de la radio-télévision suisse de 1950 à 2020. C'est 70 ans d'archives de médias ça décrit l'évolution, si je peux dire, de la perception ou de l'image publique du handicap à travers les époques.
Oui, c'est extrêmement intéressant, François, parce que on parle quand même jusqu'à 2020, donc on voit quand même 2020, c'est relativement récent.
C'est juste avant la COVID.
Mais on peut voir tout à fait là, qu'en 2020 et 2024, il y a probablement aussi eu un avancé. Et bon, 1950, on peut se douter
qu'il y a eu quand même... De quoi il s'agissait, on devait être un peu... on devait être très, très exclus. Mais... Enfin, moi, je vais rechercher ce film-là ou ce documentaire-là sur le web. Là, j'aimerais ça y jeter un coup d'œil. C'est l'œuvre de la sociologue Anne Marcellini. Ce documentaire permet de découvrir la perception du handicap à travers les époques de la radio-télévision suisse sur 70 ans. Alors, je serais bien curieux de visionner ce documentaire. Ben ici, ça va bouger cette semaine.
Ici, ça va bouger cette semaine. François, on a eu un appel à communiquer qu'on aimerait vous partager.
Oui. On dit à M. Legault, non au recul, avançons. le 5 juin, ça c'est mercredi, dans deux jours, de 14 à 16 heures au coin des rues Sherbrooke et McGill College. Là, c'est vraiment au cœur du centre-ville, je dirais, financier de Montréal. Sherbrooke et McGill College, là, c'est presque juste devant l'entrée principale de l'Université McGill. Il va y avoir une manifestation dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées à l'occasion de cette semaine-là. Bien, c'est bien beau la semaine, mais le collectif des organisations de défense des droits des personnes en situation de handicap, qui a été créé en 2020, adresse un communiqué aux autorités parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent pas rond.
Oui, effectivement. Donc, on parle évidemment là, de plusieurs aspects, entre autres au niveau du logement, au niveau de l'accès à la santé des personnes en situation de handicap, particulièrement des femmes. On en a parlé, François, et on va en reparler aujourd'hui. Il y a quand même plusieurs difficultés à atteindre des soins de santé. Il y a des personnes qui se font refuser par manque d'accès. Il y a des aussi, donc, on parle de services qui ne sont pas maintenus, des services d'accompagnement, des services de santé, des personnes qui se font annuler leur rendez-vous, qui se font déplacer leur rendez-vous.
Le manque de soutien pour... Et la violence systématique envers les femmes en situation de handicap. Là aussi, les ressources sont malheureusement pas suffisantes. Le gouvernement a coupé le budget pour les ascenseurs dans le métro.
Oui, ça aussi, là, c'est quelque chose là, qui...
scandaleux.
Qui nous fait sursauter là, parce qu'on sait que le métro, quand même, là, adapter le métro, on est déjà en retard là, sur les prévisions.
Tout à fait.
Et donc, de couper le budget, laissez-moi vous dire que ça n'aidera pas.
Et ça lance un très mauvais message de la part des autorités quant à, je dirais, à la priorité ou l'importance relative.
Surtout que le transport adapté, donc, était suffisant, a été coupé également par manque de personnel, on vous le rappelle. Donc là, si on coupe le transport adapté, on coupe également le fait d'avoir des ascenseurs dans le métro, ben quelle option on laisse aux gens qui veulent se déplacer de façon indépendante,
voilà. Et autonome. Ben voilà. Alors tout ça, c'est un ras-le-bol collectif. Mais c'est pour ça que ça a besoin qu'on y soit, puis d'avoir de faire entendre notre voix. Alors oui, ce mercredi à 14h, il va y avoir au coin de Sherbrooke et McGill College au centre-ville de Montréal, une manifestation de la part des personnes en situation de handicap. Là. Tout le monde est bienvenu d'y être et on va élever la voix et on va se faire entendre et on va dire à M. Legault, ça suffit, on va avancer plutôt que de reculer. Voilà, donc on va y être.
Oui, c'est chose dit maintenant, François. Et pour revenir aux nouvelles, en fait, on revient au niveau local.
Tout de suite après la pause, on a un petit panégyrique pour vous. À part de cette nouvelle musicale, il est sorti une étude assez troublante à Toronto.
Oui, je vous le disais, François, on parle des lacunes des soins de santé pour les femmes enceintes vivant avec un handicap. Effectivement, c'est un peu sans surprise qu'on se rend compte que des lacunes importantes, mais quand même le fait de faire une étude systématique pour montrer à quel genre on se heurte. Une femme enceinte sur 8 en Ontario souffre d'un handicap, mais effectivement, au niveau des obstacles aux soins, ça demeure extrêmement difficile, entre autres parce qu'elle n'arrive pas à avoir des rendez-vous dans des endroits adaptés. On leur refuse l'accès parce que les endroits sont mésadaptés. On a aussi plusieurs préjugés envers ces femmes au niveau du fait qu'une femme en situation de handicap peut avoir
puisse être enceinte,
peut avoir des enfants et avoir une vie donc sexuelle active.
Et en plus, après ça, s'occuper de ses enfants de façon responsable.
Oui, on est encore en 2024, François, il y a encore énormément de médecins ou de personnels de la santé qui pourtant devraient être formés à ce type d'enjeux qui ne sont pas suffisamment. Donc, on se rend compte que des femmes qui sont troublées en revenant d'un rendez-vous parce qu'elles ont été malmenées par une équipe médicale, parce qu'elles ont dû faire face à différents préjugés, en plus de faire face à des problèmes d'accessibilité physique.
Oui, tout à fait. C'est une étude importante menée par, entre autres, dirigée par Hilary Brown, de l'Institute for Clinical Evaluative Science de Toronto. On parle d'une étude qui couvre des données de 2010 à 2020 et qui comprend 150 000 naissances. Donc, on parle de vraiment une étude exhaustive. Alors, ce n'est pas un petit échantillon, là. C'est... Les conclusions de cette étude sont incontournables. Certaines participantes handicapées ont dit aux chercheurs que les infirmières, les médecins pensaient qu'elles voulaient avorter lorsqu'elles demandaient des soins ou faisaient même des hypothèses négatives sur leur future capacité parentale. D'autres participantes ont signalé un manque d'accessibilité, comme vous le disiez, des lieux. Enfin, toutes sortes de choses. C'est vraiment déplorable.
Effectivement, donc comme je vous dis, on s'en doutait, mais ça prend des études avec des chiffres à l'appui pour par la suite demander des changements et demander des ressources et possiblement une meilleure formation du personnel de santé parce que visiblement la formation est inadéquate.
Voilà, bon, on espère que ça fera bouger les choses en Ontario. Un peu dans le même, je dirais, dans la même optique, mais peut-être d'une façon plus positive, celle-là. Catherine Tate, qui est la patronne de CBC Radio-Canada, a révélé, en fait, un peu les conclusions de l'enquête que Radio-Canada avait faite et CBC pour voir comment l'inclusivité et l'accessibilité étaient traitées par les radiodiffuseurs d'État. Et une des questions qui était très simple, il demandait aux gens en situation de handicap quelles étaient les barrières les plus importantes. Est-ce que c'était l'emploi, l'environnement physique, le transport, le logement? Quelle était la priorité? Eh bien, rien, aucune de ces réponses. L'enjeu principal, c'est l'attitude.
Oui, bien effectivement, François, on parle donc d'une étude qui était faite en 2022. On vient d'avoir donc les rapports finaux. Puis effectivement, on parle évidemment de l'attitude. On parle encore une fois de préjugés. On parle de mauvaise représentation des personnes en situation de handicap lorsqu'on fait la couverture médiatique de certains événements. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait il y a quelques secondes. Il y a vraiment une question de faire changer les mentalités et ça doit être fait parce que les personnes en situation de handicap se sentent lésées au niveau des médias, de leur représentation. Et évidemment, quand on fait une mauvaise représentation des personnes en situation de handicap dans les médias, ça affecte le discours public. Et donc, ça fait en sorte qu'elles pourraient être moins soutenues pour atteindre leurs droits. Elles pourraient également, donc, avoir moins de reconnaissance publique de la part des citoyens et citoyennes quand il est temps de faire reconnaître leurs enjeux.
Et de faire bouger les choses. Hein? C'est certain que si on entretient des croyances ou des préjugés, l'attitude est mauvaise et puis ça donne des résultats comme... On a vu il y a quelques minutes sur l'accès à des soins de santé de qualité.
Et on finit par banaliser certaines choses qui ne devraient pas être banalisées, mais puisqu'on n'a pas nécessairement la sensibilité qu'il faut pour défendre ces personnes handicapées-là, parce qu'effectivement, bon, les personnes handicapées se défendent évidemment elles-mêmes. Il y a aussi des groupes de personnes en situation de handicap pour défendre ces gens-là, mais c'est aussi une question de société. Il faut que la société se lève pour défendre les droits des personnes en situation de handicap. C'est difficile d'avoir l'appui de la société si la société a des mauvaises préconceptions de ce que c'est d'être en situation de handicap.
Exact. On s'habitue à l'horreur, hein, voilà.
Oui, ben on s'habitue à l'inexplicable, en fait, et ça fait en sorte que même les personnes en situation de handicap finissent par banaliser leur propre situation
et
accepter des choses qui sont tout à fait inacceptables, comme ce qu'on a parié là, dans les dernières minutes, François.
Tout à fait. Ça nous aide à survivre certaines situations, de s'habituer à l'horreur, mais ça ne veut pas dire que...
Ça
fait avancer.
Oui, voilà. Ça ne fait pas avancer les choses et non seulement ça ne va pas avancer les choses, mais au niveau moral, au niveau de la santé psychologique, effectivement, à un moment, ça devient lourd et les personnes en situation de handicap peuvent en souffrir.
Tout à fait. Ben, toujours dans le cadre de notre politique Oreo. Hein?
Oui, je voulais vous remonter le moral, hein, François, vous qui revenez de vacances. Hein, je ne voulais pas que vous soyez trop démoralisé à cause de moi. Donc, on parle de plusieurs organismes de Lanaudière qui obtiennent du financement.
Oui, bien tout à fait. C'est dans le cadre de la Semaine nationale de l'accessibilité. Hein? Bien voilà, c'était le temps d'en parler. La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des personnes en situation de handicap, Kamal Khera, a annoncé plus de 18,7 millions en financement pour 264 projets soumis en réponse à l'appel de propositions en 2022. Donc, en 24, dans la composante des projets de petite envergure du Fonds sur l'accessibilité. Ça, c'est à la Naudière.
Oui, c'est à la Naudière. Donc, on parle, entre autres, du café du centre de Repentigny qui va être financé à la hauteur de 75 000, un peu plus de 75 000 $. On parle aussi du projet au bonheur des aînés et Chevalier de Colomb. Plusieurs petites initiatives là, qui vont être financées et effectivement, bon, ça permet à la Naudière de favoriser l'accessibilité aux personnes en situation de handicap et de faire en sorte que les personnes en situation de handicap soient mieux valorisées au travers de différents projets. Donc, c'est à force de petits projets, François, qu'on avance.
Tout à fait. Et au Nouveau-Brunswick, on parlait de Cayouche tout à l'heure, de Moncton, il y a un projet de loi qui vient d'être déposé.
Oui, un projet de loi qui vient d'être déposé à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick pour que la province soit plus accessible et inclusive pour les personnes en situation d'handicap. Donc, on demande qu'on améliore le quotidien des personnes à mobilité réduite, entre autres en demandant une meilleure accessibilité physique des lieux au Nouveau-Brunswick, parce qu'il y a encore énormément de lieux publics qui ne sont pas adaptés. Oh. Donc, on demande à avoir une loi qui oblige l'adaptation de ces lieux-là. Parce qu'effectivement, au niveau des stationnements aussi, il y a un problème au niveau de l'accessibilité des stationnements. Et donc, les personnes à mobilité réduite ou en situation d'handicap, encore une fois, ont de la difficulté à être indépendants dans leurs déplacements et dans leur quotidien. Et on veut faire sévir, en fait, pour que les personnes qui ne respectent pas la loi... Elle a des conséquences et pour, en fait, voilà, malheureusement, là, pour pousser les choses à changer. Parce que visiblement, ça ne va pas assez vite au niveau de l'accessibilité universelle.
Au Nouveau-Brunswick, exact, il y a des lacunes, hein, parce qu'il y a des institutions d'enseignement supérieur, il y a des. Le marché de l'emploi est encore un peu trop refermé. Il y avait une statistique intéressante qui, en fait, me fait penser à autre chose. Dans le communiqué, on parle que plus d'un tiers de la population de Nouveau-Brunswick a une incapacité. Ce taux est le deuxième le plus élevé au Canada.
Oui.
Moi, je pense pas que, dans l'absolu, les gens du Nouveau-Brunswick aient plus souvent des situations d'handicap qu'ailleurs. Je pense que c'est une question de... Il y a peut-être plus de gens là-bas qui ont eu la bonne idée, enfin, qui ont utilisé le crédit d'impôt pour personnes handicapées.
C'est peut-être... C'est possible,
alors qu'au Québec, on est très en retard là-dessus.
C'est un fiscaliste en vous qui fait des suppositions.
Mais ma dernière conversation avec Guillaume Parent...
Ça doit être ça.
Mais parce qu'effectivement, si on se base sur les statistiques de l'Agence du revenu du Canada pour ce qui est du crédit d'impôt pour personnes en situation d'handicap, on a l'impression qu'au Québec, on est beaucoup moins souvent en situation d'handicap et que dans d'autres provinces, comme entre autres au Nouveau-Brunswick, on l'est beaucoup.
Nous, on tourne autour de 12%.
Ouais, voilà. Alors,
Il y a toutes sortes de gens qui ne croient pas qu'ils sont en situation d'handicap ou qu'ils ont droit à ce crédit d'impôt-là en particulier.
Exact.
Alors qu'ils y auraient le droit, mais ne sont pas bien informés. C'est tout le fait qu'on a parlé il y a quelques semaines, François, de bien s'informer sur nos droits.
Tout à fait.
Pour être capable, ce crédit-là donne quand même plusieurs avantages.
Ouvre plusieurs portes au régime enregistré d'épargne invalidité et avec la nouvelle prestation qui va être lancée par le gouvernement fédéral. Voilà, petit aparté. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup plus de personnes en situation d'handicap au Nouveau-Brunswick, c'est parce que elles se sont déclarées en tant
que... Oui, c'est possiblement une question de déclaration, effectivement, et de compréhension de ce que qui constitue une personne en situation d'handicap et des droits reliés au fait d'être en situation d'handicap.
Oui, oui. Si vous me le permettez, je vais faire un petit coq à l'âne on va parler de Uber au Québec.
Oui, Uber qui fait la société qui fait une
Uber,
demande.
Hein? Uber les autos et non pas Uber, quelqu'un qui s'appelle Uber. Là.
Oui, non, mais ça, on avait compris ça, François. Mais
merci.
Je veux dire, il y a une action collective qui a été demandée contre Uber de la part de personnes de la société québécoise parce que justement, on trouve que Uber ne répond pas à ses obligations de mettre en place certains dispositifs pour favoriser il y a des placements, des personnes en situation de handicap dans ces transports.
Exact. Le cabinet d'avocats Slater Vecchio a également déposé ce recours collectif, a également déposé une demande d'autorisation pour exercer une action collective aussi, pour les mêmes raisons en Colombie-Britannique, contre Uber et Lyft, L-Y-F-T, qui est une autre société un peu du même genre qu'Uber et qui fait qui offre des services, parce que il y a, semble-t-il, dans l'application Uber, la possibilité de demander un service en mentionnant qu'il y avait un fauteuil roulant ou des adaptations qui étaient nécessaires pour le transport, mais souvent ça se révèle être pas tout à fait le cas, et là des personnes en situation de handicap n'ont pas le service auquel ils s'attendaient de recevoir, et ben, dans ce sens-là, on déroge à leurs droits.
Oui, bien effectivement, il y a un moyen de demander dans l'application, mais après, c'est toute une question de disponibilité pour un service, disons, traditionnel. Là, on peut attendre plusieurs minutes avant d'avoir un Uber, donc imaginez les personnes en situation de handicap qui demandent des accommodations, à quel point probablement qu'on ne peut pas leur offrir le service par manque de ressources. Donc, ces personnes-là, en fait, se retrouvent à ne pas avoir le service auquel ils ont droit.
Bravo. Pour revenir à la semaine québécoise des personnes handicapées, à Val-d'Or, il va y avoir toutes sortes d'activités.
Oui, il va y avoir toutes sortes d'activités à Val-d'Or, mais je vous laisse commencer, François. Je
me suis perdu dans mes faits. Ben oui, tout à fait. Alors, lundi, aujourd'hui, au Conseil de ville de Val-d'Or, il va y avoir une annonce spéciale. Ah, on va voir qu'est-ce que le Conseil de ville de Val-d'Or va nous annoncer ce soir. Demain, mardi, c'est le 5 à 7 d'employabilité, où on va reconnaître les personnes handicapées et donc faire un lien entre les employeurs de la région et les personnes en situation de handicap qui sont disponibles et dont le potentiel n'a pas été encore tout à fait pleinement exploité. Le mercredi de cette semaine, c'est un atelier de sensibilisation à l'autisme. Jeudi, c'est un barbecue de sensibilisation au handicap au parc Albert-Dumais. Et le 7, ça c'est week-end prochain, c'est un disco karaoké pour terminer la semaine en beauté. Alors c'est assez festif à Val-d'Or, du côté de Val-d'Or, pour ce qui est de la semaine québécoise des personnes en situation d'handicap.
Et à l'occasion de cette semaine, on lancera à Val-d'Or une nouvelle vignette de stationnement préparée pour favoriser les déplacements des personnes en situation d'handicap.
Bravo!
Donc, ceux qui ont le droit peuvent demander leur vignette là, pour s'assurer d'avoir la nouvelle vignette en vigueur et de pouvoir profiter des stationnements adaptés.
Ben, c'est formidable comment la semaine fait bouger les choses. Hein.
On devrait en faire une
par mois. Ouais. Hein, ça serait bien ça. La première semaine de chaque mois, ça va être une semaine de sensibilisation au handicap, parce que Shawinigan a profité de la semaine pour lancer sa politique d'accessibilité.
Oui, Shawinigan, donc, il lance sa politique d'accessibilité universelle pour permettre évidemment à ses citoyens et citoyennes de mieux vivre au quotidien, et ça va aussi permettre évidemment de bien recevoir les personnes en situation de handicap et de favoriser donc leur indépendance, leur autonomie dans la ville. Donc Shawinigan qui comprend
les besoins,
à quel point c'est important, et qui encore une fois utilise comme prétexte la semaine.
Ça paraît bien, puis en même temps tant mieux si ça marche. Et le thème, c'est ouvrons le dialogue. Alors ça, c'est bien si la planification est en amont plutôt qu'en aval, ça va bien fonctionner. Pour terminer, prenez note dans votre agenda que le 12 juin, INCA, le hub de l'INCA, va être à Québec. Voilà, c'est un retour. Ils étaient à Québec plus tôt dans la saison. Alors, INCA vous invite à aller rencontrer tout le monde au centre communautaire Cécitas, Lyon. Lyon comme les clubs Lyon, au 523 boulevard Louis XIV, porte B, pour voir un aperçu des programmes gratuits et de tout ce que INCA peut offrir. Mercredi le 12, il y aura un atelier sur des applications de téléphone intelligent accessibles et utiles. Donc ça, c'est mercredi de 10h30 à midi. Voilà, il y aura toute l'équipe de DINCA fait donc escale à Québec après avoir visité Gatineau, les Laurentides à Saint-Jérôme, Lanaudière, l'Estrie, la Mauricie. La date donc du 12 juin, c'est à mettre à votre agenda. Il va y avoir un kiosque de INSA toute la journée et en même temps, bien, on va avoir des sujets qui sont importants. Hein?
Oui, des ateliers, entre autres pour normaliser le deuil et rechute émotionnelle par rapport à une perte de vision. Il va y avoir aussi des ateliers sur le fait de savoir se vendre quand on a besoin de nouvel emploi, donc quand on est en recherche d'emploi, mais aussi au niveau quand on a
l'occasion d'avoir une entrevue.
Ben, oui, oui, assez entrevue, c'est ce que je cherchais. Merci, François.
Oui, voilà.
Donc, pour une entrevue, là, pour savoir comment se vendre pendant une entrevue. Donc, encore une fois, un cas qui propose des ateliers variés, des petites collations. Donc, pour ceux qui sont à Québec, ce sera un détour à faire.
Tout à fait. Donc, c'est le 12 juin, c'est dans 10 jours, on va y être. Tout à fait. Alors, ben merci tout le monde. J'aimerais remercier Mathieu Tessier, barista aujourd'hui, et en plus d'être technicien comme d'habitude, Claire Guérin à la recherche, Élisane Pellerin. À bientôt.
Merci François, et à la semaine prochaine.
Un bon retour. Merci.